Bienvenue à cette deuxième partie du discours. Nous allons continuer à explorer la permanence et sans de loin avoir la prétention d'en faire le tour et encore plus des applications en fait. Une fois qu'on comprend un peu et qu'on rentre dedans, ce que ça implique dans notre vie, ce que ça peut changer à chaque moment et à chaque endroit de nous-mêmes, en fait c'est énorme. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps, peu à peu, de voir en fait ce que ça implique, ce dont on discute. Dans cette partie du discours, et déjà dans la dernière, mais dans cette partie du discours de nouveau, il se peut qu'à certains endroits, vous ayez l'impression que ça devienne hors de portée ou inaccessible pour vous, incohérent, peut-être très... ça peut sonner utopique, ça peut sonner intellectuel, en fait, il peut y avoir plein de réponses à l'intérieur. Et si c'est le cas, eh ben, peut-être déjà, je pense qu'il est important de se rappeler que chacun doit écouter dedans ce qui sonne juste pour lui, et puis aussi peut-être entendre tout ce qui ne résonne pas qui est vu clairement, de l'entendre comme une question à garder, mais pas quelque chose à retenir comme tel. C'est toutes des choses, en fait, que j'aborde, ce sont des choses à explorer. Et aussi, il peut y avoir des thèmes qui sont abordés. Il y a des langages qui sont spécifiques, en fait. Et parfois, pour certains, ce n'est pas un langage que vous avez, avec lequel vous êtes encore familier. Hein, même des mots de la spiritualité qui viennent, pour ma part, beaucoup vont venir du bouddhisme ou certains de l'hindouisme. Même des concepts philosophiques qui semblent inaccessibles. L'intérêt, en fait, de les entendre, c'est parfois pour bien plus tard. Pour bien plus tard. Moi, je me rappelle de discours. J'ai entendu des choses d'il y a une vingtaine d'années d'ici que j'ai toujours pas compris. Et c'est toujours vraiment une question. Et en fait, ces questions-là, elles sont bien. Souvent, je me demande même dans quelle mesure les questions ne sont pas plus intéressantes que les réponses. Parce qu'elles nous poussent à chercher. Alors que les réponses, elles nous arrêtent quelque part. Alors parfois, des réponses, c'est pas mal, hein, ça. Ça pose un peu un sol. Mais je pense que vraiment, au niveau d'une dynamique, c'est les questions qui sont les plus intéressantes. Donc, il se pourrait, dans ce que vous entendez, que ça soit juste des questions, en fait. Ah bon, mais c'est énorme, en fait, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou est-ce seulement possible? Ou... Parce qu'il y a des remises en question aussi. On essaye, dans la spiritualité, de remettre en question des choses qui semblent établi intuitivement, comme par exemple l'existence individuelle. C'est pas par là que je vais aller, mais c'est un exemple qui est suffisamment flagrant. On en entend parler dans plein de philosophies, dans plein de spiritualités, chez nos philosophes à nous, de l'existence individuelle. Est-ce que vraiment on existe individuellement ou pas, en tant qu'entité séparée du tout? Ben voilà, c'est des questions... C'est pas des questions qu'on se pose tous les jours, on discute pas forcément de ça avec nos potes quand on se croise, et du coup, ça semble inabordable ou inaccessible. Si c'est le cas dans ce qui se dit dans les discours, c'est pas du tout grave. C'est au contraire très intéressant aussi qu'il y ait des parties de discours qui semblent inaccessibles, je pense. Donc ne soyez pas frustrés, c'est tout à fait normal, et ça a sa place. Donc la permanence, il y a aussi... On peut explorer aussi, c'est en lien avec le temps, en fait, hein, la permanence. La permanence implique l'existence du temps, d'un début, d'une durée et d'une fin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, par exemple, il y a une mousse au chocolat. J'adore la mousse au chocolat. Eh bien, je me rappelle qu'il ne faut pas que je sois distrait ou trop pris dans la conversation, sinon ma mousse au chocolat va être finie, je ne saurais même pas qui l'a mangée, parce que j'aurais pas goûté, mon attention aurait été ailleurs. Donc, je réalise que là, c'est une super bonne mousse au chocolat, et je ne me laisse pas distraire, parce que je sais que ça va finir. Hein, c'est un peu l'idée. Donc, je lâche prise sur tout ce qui me préoccupe ou tout ce qui pourrait m'attirer ailleurs, parce que je sais que ça, c'est une expérience que je veux vivre. C'est un peu l'idée. Donc, la connaissance de l'impermanence de la mousse au chocolat me permet de bien goûter la mousse au chocolat. Maintenant, si vraiment Mettons que je sois dans un contexte tout à fait propice, comme par exemple dans certaines retraites de méditation, où on a comme à nourrir son corps et son esprit, qu'on fait en jeûne, où quand on mange, on est aussi très attentif au goût, très attentif à chaque bouchée. Hein, on pratique ce qu'on appelle la mastication consciente, mais on reste vraiment avec la manière dont les aliments se transforment dans notre bouche. Eh bien, il se pourrait que je remarque que la mousse au chocolat, après 80 mastications, n'a plus un goût qui me plaît autant. En fait, le goût change dans la même bouchée. Et en fait, l'idée, cette idée que j'ai que la mousse au chocolat, c'est quelque chose que j'aime, c'est déjà une solidification qui ne prouve pas être réelle dans la durée. C'est-à-dire que, en fait, au début, je vais avoir un certain goût, et puis le goût change, 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 change. Et puis je vais reprendre une bouchée, ça, hop, c'est encore autre chose, et puis change, 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 change. Donc on pourrait dire la mousse au chocolat, elle est impermanente parce que bientôt, ça va être fini. Mais même à l'intérieur de l'expérience, ça change constamment. Ça change constamment. C'est constamment en changement. Donc même de l'intérieur, même quelque chose qu'on pourrait dire, on dirait que c'est comme si c'était permanent pour un temps défini, c'est même pas permanent pour un temps défini. À l'intérieur de son temps d'existence, c'est déjà tout le temps en changement. Ça n'a aucune solidité, en fait. Mais nous autres êtres humains, on solidifie tout parce que ça fait partie du fonctionnement de l'esprit. On est obligé, et c'est pas une erreur, mais on est obligé de travailler avec des images. Donc il y a l'idée de la mousse au chocolat. Donc j'ai l'idée de la mousse au chocolat, je me réjouis quand je vois la mousse au chocolat, et je suis content quand je mange la mousse au chocolat. Mais je ne la goûte pas comme parfois je la goûte en retraite avec tout ce changement dans cette finesse. Et ma foi, bah, ça, c'est pratique, ces idées, mais on a ça avec tout. Donc on a une image de chaque chose qu'on rencontre. Par exemple, on va avoir une image de ce que veut dire arbre. Et du coup, c'est comme ça qu'on va aussi rencontrer un arbre. Et du coup, on passe à côté, par exemple, d'arbres qui ont de toute beauté, qu'on ne va pas forcément voir, parce qu'on voit, ce qu'on voit, c'est notre idée de l'arbre. Donc on va avoir, c'est une des problématiques quelque part de cet esprit qui fait des images. C'est bien nécessaire, parce que sinon ce serait une quantité phénoménale d'informations vibratoires constantes, et on pourrait même pas, on serait paralysé dans ce monde, on pourrait même pas exister. Mais par contre, le fait de fonctionner avec des images pose le problème de ne plus parfois être en contact direct avec le moment tel qu'il est. Par exemple, après cette retraite, peut-être je vais rentrer à la maison. Comment est-ce que je rentre à la maison? Est-ce que je rentre, par exemple, il y a ma femme qui est dans la pièce, là, est-ce que je rentre et du coup, voilà, c'est Lydia, je connais Lydia, et je rentre et je l'aborde comme elle existe dans mon idée. Et peut-être je ne suis pas suffisamment sensible de là où elle en est exactement dans ce moment. De l'énergie qui est dans la pièce, de son énergie, de qui elle est là, juste là. Moi, j'arrive et c'est Lydia, ma compagne depuis tant d'années. Et du coup, je ne suis pas à la page, je ne suis pas bien aligné au moment. Et alors, à ce moment-là, il peut y avoir des décalages, il y en a tout le temps en fait. Ah, et puis, c'est ça, être humain, on a l'habitude et un peu de tolérance et tout ça, et puis ça se cale et se décale. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de remarquer que on a ce fonctionnement avec des images. On fige les choses. Dimanche passé, je faisais une retraite de méditation comme ça à Miramas. Et avant la retraite, j'avais été boire un café le matin. Et il y a un gars qui rentre dans le café et qui. Le cafetier lui dit: Ça va aujourd'hui? Il fait bah, comme un dimanche. Ben voilà. Hein? C'est un dimanche, quoi. Un dimanche, comme tous les dimanches, c'est dimanche. Oui, et on fonctionne avec des idées comme ça. Hein? Voilà, comme un dimanche. Ça veut dire quelque chose, mais ça veut rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et on fonctionne comme ça. Et ce qui est problématique, c'est qu'après, il y a aussi le comme un lundi. Hein? Comme un lundi, quoi. On le connaît, celui-là aussi. Et du coup, on reproduit comme ça des choses, comme si c'était des blocs, des images toutes figées, et on relationne, et notre quotidien peut devenir un peu trop de ces blocs et de ces images et de ces répétitions, en fait. de ces répétitions. Comme si, par exemple, moi, quand je rentre et que je vois ma femme, ben, c'est comme juste une répétition du passé, une idée qui existe dans mon esprit et plus une personne dans la finesse et la grande diversité d'expression. Ça aussi, c'est l'impermanence. C'est-à-dire que il n'y a pas de permanence dans les gens qu'on rencontre. Et on a besoin à la fois d'avoir une image d'eux et de nous-mêmes pour pouvoir fonctionner les uns avec les autres, mais il faut qu'on reste conscient ou qu'on redevienne conscient que c'est conventionnel, en fait, ces images, c'est des conventions. Ce n'est pas l'expression de notre nature profonde dans le foisonnement et la diversité de ce qu'on est moment après moment en fonction de tout l'univers qu'on a autour de nous, qui impacte sur nous et qui fait qu'on change constamment. C'est des niveaux de réalité différentes. Et on a l'habitude, je trouve, de rester au niveau de l'image très très fort. Et de relationner. Et puis on fait des mises à jour. On fait constamment des mises à jour de notre image de nous-mêmes. Elle change tout le temps. Notre image de nous-mêmes, si vous regardez, du matin au soir, elle n'arrête pas de changer en fonction de comment on se sent, du temps qu'il fait, de ce que quelqu'un a dit ou n'a pas dit, d'un souvenir qui vient, d'une odeur qui rappelle quelque chose. Notre image de nous-mêmes change tout le temps. Et l'image que se fait des autres aussi change en fonction de nos états d'esprit et tout ça. Donc, ben voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas figé complètement, les images. Il y a des mises à jour qui se font constamment. Je trouve qu'on le voit très, très fort, d'ailleurs, avec les enfants. La permanence, alors là, avec les enfants, ce qui est super, c'est on n'y arrive pas en tant que parent à suivre le développement de l'enfant. On a toujours quelques étapes de retard. Les mises à jour sont constantes. Mais il grandit à une telle vitesse, il change à une telle vitesse que j'ai l'impression d'être tout le temps en train de relationner avec mon fils avec 6 mois de retard ou je ne sais pas combien de retard. Mais il évolue tellement vite que mon adaptation suit quelque part, tant bien que mal. Donc là aussi, il y a l'impermanence. Donc on peut dire, par exemple, si je pense à mon fils, ben, il y a l'impermanence du fait qu'il est né, il a une durée, il a une fin. Mais ça, c'est la permanence un peu superficielle. Mais à l'intérieur de ça, il n'y a rien, absolument rien de lui qui est solide, figé, fixe et là tout le temps. Il est tout le temps différent, il est tout le temps dans un processus différent, il est tout le temps en transformation. Et pareil pour moi et pareil pour nous tous, en fait. Et on n'en a pas forcément conscience et du coup, on relationne. Encore, je le redis, je ne pense pas que ce soit une erreur de relationner avec des images. On ne peut pas faire autrement. C'est une nécessité, c'est un fonctionnement nécessaire de l'esprit. Mais c'est de prendre ces images pour la totalité de la réalité qui est problématique, je pense. Et d'autant plus, on peut le voir et on peut le comprendre très fort quand on parle de l'ego. Hein, l'ego qui est aussi une image, une idée qu'on se fait de nous-mêmes, une construction mentale qui n'est enracinée dans aucune réalité, qui est une projection quelque part. Hein, si la mémoire s'arrête, l'ego s'arrête. On a besoin de la mémoire pour qu'il y ait cet ego, cette idée qu'on a de nous-mêmes. Et donc la construction en soi, j'entendais dire que la construction de l'ego dans la psychologie occidentale, ben, c'est une étape nécessaire. Ça veut dire des choses différentes entre Occident et Orient, le mot ego. La construction de l'ego, donc d'une identité forte et résiliente, on va dire, est nécessaire en psychologie occidentale, mais je pense que le problème vraiment c'est de croire qu'on est ça. C'est pas qui est ça, en soi c'est nécessaire, mais c'est de croire que ça c'est la totalité de ce qu'on est, que c'est l'expression de la totalité de ce qu'on est. C'est là que naît la souffrance ou le enfin la souffrance et le fait d'être une insensibilité, en fait. C'est une insensibilité, on est plus sensible à nos profondeurs, au mouvement de nos profondeurs, à tout ce qui est vécu, à cette âme qui vit dedans, derrière ces images. Donc de ne pas savoir qu'on fonctionne avec des images est problématique et de prendre ces images pour la réalité. Comme si on parlait du Gange qui est tout le temps en mouvement, c'est comme si on prenait une photo du Gange et du coup on regarde la photo, mais la photo c'est pas le Gange. Et donc on a un esprit qui, pour pouvoir travailler avec les choses, les fige. Voilà. Et c'est important de se rendre compte de ça. Parce qu'en les figeant, il y a cette sensation que c'est permanent, que c'est comme ça. Voilà, ça existe et c'est comme ça. Je me rappelle quand j'étais en voyage, je téléphonais assez rarement à la maison. J'ai téléphoné une fois par mois. Et je me rappelle plusieurs fois où ma mère me disait, par exemple, ah ben, ta soeur, ça va pas très bien. Eh ben, pour moi, ma soeur, elle n'allait pas très bien jusqu'au mois suivant. Alors que si ça se trouve, c'était juste là une heure ou deux que ma mère avait croisé ma soeur et que ça n'allait pas très bien. Mais le soir même ou le lendemain, ça avait peut-être changé, mais dans mon esprit, ça restait ma soeur va pas très bien jusqu'au prochain coup de fil. Hein. Ça donnait des quiproquos tout le temps, parce qu'à un moment, j'avais ma soeur au téléphone et je disais, alors, t'étais pas très bien. Ouais, elle était toute surprise. Je disais, oui, il y a 3 semaines, un mois, elle ne se rappelait même plus. Enfin, c'était pas du tout juste comme image, mais il n'y avait pas eu la mise à jour. Voilà, parce que l'esprit avait attrapé ça, elle avait figé. Il avait fait une image, et puis voilà, c'est comme ça. C'est arrêté. Ça arrête, en fait. C'est des arrêts sur image. Alors qu'en fait, ça bouge constamment tout le temps. Qui on est, ce qu'on est, qui sont les autres, ce que sont les autres. Je me rappelle, donc il y a eu toute une époque, pendant longtemps, en fait, je fumais de l'herbe. Et j'ai beaucoup aimé ça. Je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses dans ma recherche spirituelle aussi. Il y a un moment où peu à peu ça a glissé vers quelque chose qui était plus juste pour moi. Mais par contre, je continuais, j'ai continué, j'ai continué pendant longtemps. Alors que je me rappelle même le moment où j'avais plus du tout envie de fumer, mais quand même je fumais. En fait, j'ai compris pourquoi plus tard. C'est parce que j'ai eu des très très beaux moments et du coup ça s'était associé. Et du coup, il y avait quelque chose dans mon esprit qui disait quelque chose comme c'était une association entre ce moment privilégié et un beau moment. Alors que, au niveau de. Il y a quelque chose en moi qui essaie de mettre à jour et de dire que c'était plus du tout des beaux moments, j'avais même plus envie d'être dans cet état, en fait. J'avais même plus envie d'être dans cet état. Mais c'était tellement fortement ancré que ça, c'est des beaux moments. Hein, ça avait été figé, arrêté, que du coup, je reportais ça et c'était impossible d'arrêter. Il y a des choses comme ça qui sont profondément ancrées comme étant comme ceci ou étant comme cela, définies une fois pour toutes, terminées, on ne peut plus y toucher. Et après ça, ça n'a pas la possibilité de suivre la fluidité et la transformation que la vie amène à chaque fois. J'ai une amie qui me disait récemment en fait que donc elle travaille beaucoup à aider dans la rue les personnes sans abri. Et aussi très investi dans la cause de la souffrance animale. Et là, elle est, je dirais pas loin du burn-out, peut-être parce qu'elle donne beaucoup trop. Et du coup, il peut y avoir plein de choses là-dedans, mais il peut y avoir au niveau de l'image, il peut y avoir une image un besoin d'être la personne qui est là et qui fait ce genre de travail. Ça peut être une image qui est surimposée et qui, du coup, il n'y a pas moyen de voir la sensibilité au-delà qui a besoin d'autre chose, peut-être plus de temps pour soi, peut-être plus de temps, je sais pas, pour le couple ou plus de temps pour les projets. Mais non, parce qu'il y a cette image qui est là, très forte, comme une injonction. Et du coup, on ne voit pas à travers. Ça a été solidifié comme si c'était inquestionnable que c'est ça qu'il faut être tout le temps. Quelqu'un qui aide, quelqu'un qui est là. Et puis alors en discutant, et quand elle voyait que, ben oui, effectivement, là, il faudrait lever le pied, faire autre chose, du coup, ce qu'elle sentait, c'est que elle n'avait pas trouvé l'équilibre juste. Mais ça aussi, c'est une image, l'équilibre juste. Parce que peut-être c'était juste il y a encore 6 mois. Peut-être que ça change. Peut-être que c'était juste il y a 6 mois et que maintenant c'est plus juste. Mais du coup, comme on a toujours ce fonctionnement où on croit que les choses sont solides et rigides, on a cette idée que l'équilibre parfait doit être trouvé. Mais peut-être qu'il n'y a pas un équilibre parfait. Peut-être que c'est chaque fois dans le moment une manière d'être qui est l'équilibre parfait, mais qu'on ne peut pas dire, ah ben là, depuis ce type de vie, il manque de ceci ou il manque de cela, comme s'il y avait une balance parfaite. Mais on a cette idée qu'il y a quelque chose de stable, de solide, on le trouve et c'est bon, c'est permanent. Alors qu'en fait, non, c'est chaque fois ça change, chaque fois ça change. C'est que ça serait comme demander à un joueur d'échecs professionnel de lui dire, allez, vas-y, dis-moi, c'est quoi le bon coup en fait aux échecs? Ça dépend de la situation, à chaque fois ça change constamment, il n'y a pas un bon coup à faire. Donc tout change tout le temps, on se retrouve en fait dans un monde où tout change. Tout change, rien n'est stable. On dit à permanent, oui, ok, on va mourir. On dit à permanent, ok, mon enfant va grandir. Ok, c'est ça. Mais c'est aussi à l'intérieur de ça. Même là, il n'y a pas la moindre once de solidité. On solidifie. L'esprit solidifie. Pas du tout un problème. Mais il faut savoir que ça, c'est une image. Ce n'est pas le contact direct avec le mouvement. Parce que sinon, ça pose tous les problèmes qu'on sait, qu'on connaît. Déjà au niveau de l'agitation mentale, parce que je veux bien que la construction de l'ego soit une étape essentielle. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il y a un moment, il faut s'arrêter aussi. Ou en tout cas, il faut ralentir, parce qu'on est quand même vachement préoccupé par la construction de l'image, surtout maintenant avec l'émergence des réseaux sociaux et tout ça. Mais ça n'arrête plus, en fait. Ça n'arrête plus de se faire une façade. C'est énorme. C'est énorme cette nécessité d'être quelqu'un. D'être quelqu'un de spécial, que ce soit le plus grand artiste, ou le sauveur du monde, ou la plus grande victime sur Terre, ou que ce soit n'importe quoi, ce besoin d'être spécial, qu'est-ce qu'on y boulotte dans notre monde? Et c'est super agitant, et puis ça demande beaucoup, alors ça crée des confusions et des impacts énormes sur nos relations aux autres, sur nous, ça nous fait vivre des émotions de ne pas y arriver, de critiques intérieures, enfin ça nous explose notre relation à la simplicité et à un monde de présence, ça agite l'esprit constamment, ça sollicite l'esprit constamment, enfin c'est énorme, et puis on pompe dans les ressources et on pompe on devient obnubilé par le fait d'être quelque chose, de devenir quelqu'un, de réussir cela, de fleurir. C'était un de mes enseignants, Robert Béat, qui disait, bah, même ces notions de s'épanouir personnellement, ça n'existe absolument pas dans les anciens textes. C'est des notions récentes, ça, de s'épanouir individuellement. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais je pense qu'il y a un équilibre à avoir avec un moment. De nouveau, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas ça la réalisation spirituelle. C'est pas de s'épanouir personnellement. Et c'est encore une idée. L'idée de l'épanouissement personnel. Donc une citation d'un philosophe Locke, je pense que c'est un Écossais, je suis pas sûr. La mémoire est la capacité à lier les perceptions passées aux perceptions présentes. La mémoire et la capacité à lier les perceptions passées aux perceptions présentes. Ce qui fait que je suis une seule et même personne, c'est que je me souviens de mes actions et perceptions passées. Autrement dit, c'est la mémoire qui fonde l'identité personnelle. Donc en fait, ce qui donne un sens de continuité, c'est la mémoire. Et je pense que on peut imaginer ce que ça serait s'il n'y avait pas la mémoire. En fait, il y aurait un moment comme ça, mais il n'y aurait pas cette identité qui est là pour le moment. Elle est maintenue en arrière-plan, comme un travail, comme un ordinateur qui travaille en arrière-plan et qui amène tout un tas d'informations pour que ça puisse fonctionner et avec une sensation d'identité. Et un autre penseur, David Hume. Lorsque j'entre plus intimement dans ce que j'appelle moi-même, je tombe toujours sur une perception particulière ou autre, de la chaleur ou du froid, de la lumière ou de l'ombre, de l'amour ou de la haine, de la douleur ou du plaisir. Je ne m'attrape jamais à aucun moment sans perception. Et je ne peux rien observer d'autre que la perception. La douleur et le plaisir, le chagrin et la joie, les passions et les sensations se succèdent et n'existent jamais tout en même temps. Donc dans sa manière de le décrire, on voit bien ce foisonnement, en fait, ce stream, ce mouvement, ce flux de perceptions constants, très colorés, très changeants, très forts aussi, qui crée notre expérience, notre sensation d'exister. Donc plus loin, il dit, je peux oser affirmer du reste de l'humanité qu'ils ne sont rien d'autre qu'un faisceau ou un ensemble de perceptions différentes qui se succèdent avec une rapidité inconcevable et sont dans un flux et un mouvement perpétuel. Donc de nouveau, cette sensation de flux. Et la mémoire donne une cohésion à tout ça, en une image qu'on ressent comme étant nous-mêmes. Et cette image, du coup, on a Elle amène avec elle, comme toutes les images, une sensation de permanence, de quelque chose qui ne change pas. Comme je le disais avec ma mère qui me disait que ma soeur n'allait pas bien, ça donnait une continuité comme ça. Une image qui se dépose et qui reste comme si elle existait en elle-même. Et le problème vient quand on commence à travailler au service de cette image et quand cette image qui nous donne un sens et qui une sensation d'autonomie, d'indépendance et que ça devient de l'égoïsme et qu'on est constamment obnubilé par le bénéfice qu'on peut avoir de telle rencontre, de tel moment, de telle situation, comment on peut en retirer de la gratitude, de la reconnaissance, de un bénéfice quelconque. En fait, on travaille au service d'une image qui est une convention et pas une réalité ultime. Et du coup, on a cette image qui est très solide et cette croyance que cette image, c'est ce que je suis, alors qu'on vient de l'explorer, ce que je suis, c'est une constante transformation, un flux constant en fait, d'informations. Et du coup, il y a cette identification à cette image et un travail qui se fait peu à peu pour tirer du bénéfice pour ce leurre. Quand on pratique la méditation, ce qui arrive assez souvent, c'est quand l'esprit se pose, du coup qu'il n'y a plus trop d'activité mentale, à ce moment-là, cette image, elle n'est plus trop fabriquée, parce qu'elle a besoin d'être fabriquée constamment. C'est une activité constante, en fait. Cette image-là, elle n'est plus trop fabriquée. On se retrouve dans des espaces de nous-mêmes dans lesquels on est encore conscient ou plus ou moins conscient parfois. On n'est plus aussi conscient de nous-mêmes parfois, mais parfois si. Mais en tout cas, il n'y a plus cette émergence foisonnante d'idées à propos de nous-mêmes, n'émerge plus notre personnalité, nos idées à propos de nous-mêmes. On peut se retrouver en méditation et on n'a plus cette sensation d'avoir un passé, un futur, des projets, une identité, même plus d'être un homme ou une femme en fait. On n'a plus cette sensation-là. Dans ce moment-là, elle n'est plus là. C'est pas quelque chose qui est forcément super étonnant, parce qu'on reste quand même en contact avec qui on est vraiment profondément et on a l'habitude de ça, même si on ne l'a jamais remarqué. Mais on a toujours été ce qu'on est, et quelque part, ce n'est pas parce qu'on enlève toutes les croûtes de nous-mêmes que du coup c'est quelque chose de complètement nouveau. Ce n'est pas forcément une expérience transcendantale, et parfois on passe même à côté en fait. On a un grand moment de quiétude, n'apparaissent plus toutes ces constructions identitaires, et ce n'est pas super surprenant. Voilà, ce n'est pas comme si on était entré dans un autre monde ou des choses comme ça. Mais parfois, il peut y avoir à ce moment-là des résistances, comme de l'ennui, on en parlait tout à l'heure, qui est une forme de résistance. Il peut y avoir de la peur aussi. Il peut y avoir quelque chose en nous qui résiste et, parce que ce contact avec nous-mêmes est peu familier. On a l'habitude d'être, dès qu'on est conscient de nous-mêmes, on est conscient de nous-mêmes à travers les idées qu'on a de nous-mêmes aussi. Et là, comme l'esprit est posé, il ne fabrique plus ses idées. La mémoire a moins un rôle, elle n'est plus entre l'attention et notre contact avec nous-mêmes. Elle n'est plus en train de... on est conscient de nous-mêmes sans passer trop par la mémoire. On ne se rappelle plus de notre passé. On n'est pas là en train de se dire « Tiens, je ne me rappelle plus de mon passé. » C'est pas ça. C'est juste qu'il n'y a pas ça dans le moment. Il n'y a pas ce questionnement dans le moment. Et ça peut générer de la peur. Ça peut générer de la peur aussi parce que il y a cette habitude d'exister à travers cette image. C'est une vieille habitude, on l'a construite depuis qu'on est tout petit. On y a passé beaucoup de temps. Elle est très importante pour nous, cette image. Hein? Il y a des gens, si l'image d'eux-mêmes change, eh bien, ils se suicident. Je vais dire, même au niveau physique, des gens qui étaient très attachés à leur beauté, par exemple, et qui pensaient je suis quelqu'un de beau ou je suis belle. Et puis peu à peu, va très très mal vieillir la vieillesse, voire un accident ou quelque chose comme ça, et peut se pousser en fait au suicide. Ou c'est pareil pour l'identification à « je suis quelqu'un de riche » ou « je suis quelqu'un qui a des connaissances ». Et puis, mais si quelqu'un remet mes connaissances en cause, je me ressens personnellement mis en cause, par exemple. Donc il y a énormément d'identification comme ça. Et pourtant, en méditation, on vit des moments dans lesquels toutes ces identités n'apparaissent pas. Il y a des moments qui sont spacieux et sans que la mémoire soit en activité et ramène cette image de nous-mêmes. Et là, dans ces moments-là, pour certains, ça, et à certains moments, moi ça me le fait de temps en temps, il peut y avoir une peur qui émerge. Parce qu'il y a ce manque de familiarité avec le fait d'exister sans avoir une image de nous-mêmes. C'est peu familier. On n'est pas encore intime avec cette manière d'être. Parce qu'elle est souvent couverte, parce que les images de nous-mêmes, elles sont très bruyantes, elles attirent l'attention, elles attirent le regard, elles sont tout le temps présentes. C'est comme un nuage dans le ciel attire le regard, on ne voit pas l'immensité du ciel, tout de suite on voit le nuage. Dès qu'il se passe quelque chose, c'est ça qui attire l'attention. Donc nos images de nous-mêmes, nos identités qui se fabriquent constamment, hautes en couleurs, hautes en émotions, elles attirent notre regard et on ne voit pas le silence de nous-mêmes. On n'entend pas le silence de nous-mêmes. Il est couvert par ce mouvement, ce brouhaha. Ça me fait penser à un poème de... enfin, je ne sais pas qui a écrit ce poème, c'est un méditant, qui disait... Quand je me retrouve dans le grand silence de moi-même, le monde aussi est silencieux. Et alors, un arbre devient un mystère. Un nuage amène des révélations. Et une autre personne est un cosmos immense. Donc ces images, en fait, c'est étonnant de déjà qu'on n'ait pas plus de conscience que ce sont des images, que ce sont des constructions. Par exemple, l'idée que vous avez de moi est une construction qui change constamment. Et si on interrogeait, il y aurait plein d'idées différentes. Laquelle est moi? Probablement aucune. Hein? Pareil, moi, les idées que j'ai de chacun de vous avoir rencontré et tout ça, ce sont toutes des choses qui se sont fabriquées en moi, qui me permettent d'être en relation avec vous peu à peu. Hein. En plus, je n'ai pas une super bonne mémoire, alors les prénoms, les visages, tout ça, je mets un peu plus de temps, mais c'est comme ça quand même que ça fonctionne. Mais si je limite votre réalité à ça, c'est un peu dommage. C'est bien nécessaire pour qu'on puisse continuer à fonctionner, se retrouver, s'écrire des emails et se faire des rendez-vous. Mais s'il ne s'agit que de ça, c'est pauvre. C'est très pauvre. Et c'est très insatisfaisant. Et c'est très figé. Et ça ne vous permet pas d'être pleinement vous-même. Et de toute façon, même si vous êtes pleinement vous-même, ce n'est pas grave, je vais en faire une image très fixe. Donc de réaliser peu à peu qu'en fait, non, non, vous n'avez rien de permanent. Et du coup, de vous accueillir à chaque fois dans votre nouveauté aussi. Et d'être moi à même d'avoir cette sensibilité, de ne pas me mettre en relation avec vous, comme si c'était une accumulation de tout ce qui s'est passé les dernières fois qu'on s'est rencontrés. C'est comme vivre un peu dans deux mondes. Ce monde des images figées est nécessaire, mais ne pas réduire la totalité de l'existence humaine à un monde d'images figées. Ce n'est pas fixe. Et dans le Coran, il y a une phrase qu'on retrouve cette idée un peu dans toutes les spiritualités, en fait. Dans le Coran, c'est meurs avant de mourir, tout simple. Hein? Meurs avant de mourir. Et je pense que ça parle de ça parle d'un moment, cette petite mort, cette mort de cette réalisation que il y a toute une partie de moi-même, en fait, qui est une idée, qui est imaginaire. C'est magnifique, en fait, parce que ça, au moins, ça ramène l'imagination, parce que souvent, le monde de la méditation met un peu l'imagination de côté, comme si c'était des distractions qui n'avaient rien à voir avec la réalité telle qu'elle est. Mais en fait, la réalité telle qu'elle est pleine d'imagination. Et du coup, meurt avant de mourir, c'est aussi quelque part accepter le départ, accepter de laisser place. Il y a une autre phrase dans le Coran qui. Attendez, qu'elle me revienne. Je ne me rappelle plus de la phrase. Mais l'idée. L'idée donc, qu'on retrouve aussi dans beaucoup de spiritualité et qu'on retrouve dans le Coran, c'est que le parcours spirituel, en fait, c'est de laisser mourir ce qui en nous n'est pas Dieu, dans le Coran. Laisser mourir en nous ce qui n'est pas Dieu. Ça, c'est le parcours spirituel. C'est-à-dire laisser traverser à travers nous ce qui n'est pas d'une construction égocentrique. Et du coup, qui est de moins en moins de moi, pour moi et à moi. Et de plus en plus de, à travers ce corps-esprit, la vie prend soin de la vie et accueille la vie qui se présente autour. Qui est quelque chose de se sentir clairement au service d'eux, et pas juste au service de moi-même et de la construction de mon image, cet édifice interminable, scabreux et qui me met en insécurité, en fait. Donc, meurs avant de mourir. Et c'est ce qu'on pratique aussi en méditation. En méditation, quand on voit la construction de l'image qui vient, oh, lui, hier, quand il m'a vu, il m'a dit ceci et cela, et du coup, un compliment, et on va le ressasser, ou quelqu'un m'a dit une insulte, et du coup, ah, oh, il aurait pas. Toutes ces histoires à propos de nous-mêmes, tous nos projets, toutes nos envies, tout. Non, c'est pas à propos de ça. On peut mourir à ça. On peut vivre un temps sans ça. On n'a pas besoin de n'exister que à travers ça. On peut être et se sentir exister indépendamment de ça. Ça, c'est meurt avant de mourir. Là, de nouveau, pour moi toujours important parce que c'est pas facile de faire la distinction. On voit qu'on n'est plus dans le domaine du développement personnel. On n'est plus dans le domaine de. Pour Krishnamurti, disait, il parlait pas du. C'est self-improvement, donc le développement personnel, c'est comme aménager sa prison. Voilà comment il le décrivait. Et c'est un peu. Il y a ce côté de Krishnamurti qui est un petit peu acide. Hein. Il a toujours été un petit peu comme ça. Parce que moi, je pense que en fait, c'est super important. Même si c'est aménager sa prison, c'est important parce que c'est pas une prison, c'est notre vie et c'est le monde. Ah, donc le développement personnel, c'est très, très important. Mais de nouveau, la spiritualité et la relation avec soi-même au-delà de tous ces mondes construits, c'est autre chose. Et un des traits de l'ego, c'est qu'il y a ce besoin de permanence, de solidité, d'existence solide et permanente. Et du coup, quand on réalise au fur et à mesure que vraiment on pratique et on s'interroge et on réalise que rien ne dure, tout ce qu'on peut observer change, tout ce qu'on peut observer change tout le temps. À ce moment-là, ça fragilise la possibilité d'un ego fort, de moi j'existe et les autres je m'en fous. C'est pas possible. Quand on regarde notre expérience, c'est impossible parce qu'on ne voit pas ce moi j'existe qui est là tout le temps solide, stable. Il est introuvable. Et du coup, ce processus peu à peu de mort lente de l'ego. Donc c'est marrant parce qu'il y a ce processus de construire cet ego et puis après ça de le laisser mourir. Et ça, c'est pas peut-être pas. C'est difficile ces mots parce que ego, individualité, personnalité, où est-ce qu'on met les limites, où est-ce qu'on met les. C'est très flou, c'est très flou. Mais pour moi, c'est pas devenir juste une essence commune dans laquelle on n'a plus d'individualité ou de personnalité propre, mais c'est juste de savoir que ça, ce n'est pas la totalité de nous-mêmes. Ce n'est pas la totalité de nous-mêmes. C'est comme des vagues. C'est comme des vagues dans l'océan. Elles sont toutes différentes. Elles sont toutes impermanentes. Mais en fait, elles sont toutes rien d'autre que de l'eau. Il n'y a pas quelque chose de la vague qui existe indépendamment de l'eau. Et du coup, c'est de réaliser que nous, dans notre nature, peut-être, on a une identité commune, on a quelque chose de commun. Et laisser partir cette suridentification à la forme qu'on a dans ce moment. Donc tout, en fait, cette notion d'impermanence, comme les trois caractéristiques de la vie dont je parlais tout à l'heure dans les discours du Bouddha, la première étant l'impermanence, moi, la manière dont je la comprends, c'est une compréhension qui permet de lâcher prise. C'est une compréhension qui permet de lâcher prise, comme je viens de le dire par exemple sur la construction de l'ego. Ou c'est je pense qu'une manière de voir la crise sociétale qu'on vit pour le moment, la crise écologique qu'on vit pour le moment, c'est aussi une façon de lâcher prise. Cette prise très forte qu'on a prise en Occident et qui est prise un peu partout maintenant dans le monde d'un attachement à la matière et donc d'être en fait de voir que le bonheur est accessible à travers la possession de choses. Hein? C'est un peu le paradigme occidental qui s'est étendu, le matérialisme. Et du coup, là, on est à un moment de société, il me semble, hein, où on doit lâcher. Parce que on parle de rupture de stock dans la chaîne d'approvisionnement, on parle peu à peu de. Il y a des médicaments. Moi, par exemple, j'ai de l'asthme. Et du coup, je prends un médicament. Ah ben, l'autre jour, mon médicament, il n'était pas disponible. Ben, c'est vachement intéressant, ça. Parce que qu'est-ce que je croyais? Est-ce que je croyais que c'était permanent, que j'allais l'avoir toute ma vie? Eh ben, maintenant, quand je prends mon médicament, il est bien précieux. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être bien, en fait, que notre société, maintenant, va être forcée de vivre et de goûter à chaque moment comme étant un moment précieux parce qu'il n'est plus garanti sur facture par une société qui a garanti la pérennité de la chaîne de consommation. Et que chaque chose qu'on a maintenant, on ne sait pas si on va l'avoir demain, on ne sait pas si elle va se trouver dans le magasin, on ne sait pas s'il y en aura de l'essence à la pompe, on ne sait pas. On ne sait même pas s'il y aura encore de l'eau, on ne sait pas, on ne sait pas. Ben, on arrive dans cette période, oui, d'insécurité, mais aussi qui nous pousse. C'est une crise spirituelle qu'on vit en fait. C'est une crise spirituelle parce qu'on a essayé la voie du matérialisme jusqu'à l'extrême et du coup on a oublié l'existence un peu spirituelle de notre être et la voie du matérialisme a amené à une destruction phénoménale qui fait que ça ne fonctionne plus à un moment, c'est en déséquilibre. Et là, peut-être même pour les jeunes générations, c'est une chance de nouveau retrouver du sens aussi. Oui, c'est le revers de la médaille, mais du côté positif. C'est peut-être qu'eux vont avoir la chance de grandir dans un monde où de nouveau les choses sont précieuses. Parce que nous, on n'a pas eu cette chance. Nous, tout à profusion. Nous. Et puis du coup, rien n'est précieux. Rien n'est précieux, comment on trouve du sens alors? Si tout est pérenne, rien ne va mourir, tout ce qu'on a, on l'aura toujours et encore plus. Eh bien, du coup, on consomme et ça ne nous fait même pas plaisir, ça ne nous rend même pas heureux de consommer comme ça. On a consommé plus que tout le restant de la planète sur toute l'histoire de l'humanité, et aussi on a consommé plus d'antidépresseurs. Alors, on est à une période où vraiment il n'y a jamais eu autant de dépression. Je parle pas maintenant, parce que maintenant encore ça commencera à s'expliquer, mais déjà il y a 20 ans. Alors qu'on avait accès à tout, enfin à tout, hein, à tout matériellement. Eh ben non, on ne trouvait pas le bonheur, parce que les choses n'avaient plus aucune valeur. Et maintenant, eh ben, par le fait de la menace d'en être privé, peut-être que les choses vont retrouver une valeur. Et peut-être que si elles retrouvent une valeur, nous et nos enfants vont trouver cette espèce de bonheur et cette chance et cette gratitude d'avoir ça aujourd'hui, maintenant, dans ce moment, et pleinement le goûter. Et du coup, oh, beau moment éclos dans leur journée, parce qu'ils ont un moment précieux. C'est en tout cas clairement une crise spirituelle. Ça, pour moi, c'est évident. Et aussi une opportunité, je pense. Parce que maintenant, de plus en plus, il est clair que ce qu'on croyait être acquis ne l'est pas. Même au niveau de l'essentiel. Grande possibilité d'éveil du coup. Merci pour votre écoute.
Ce discours a été mis à votre disposition par l'association Dharma Nature. Pour soutenir l'association et Denis Roberex, l'enseignant, rendez-vous sur www.dharmanature.org/donation. www.dharmanature.org/donation.